Ça jase à Lyon sur Jazz Radio et LyonMag.com avec Alexis André.
Bonjour à tous pour ce nouveau numéro de Ça jase à Lyon. Je reçois ce matin l'auteur lyonnais Jacques Brunier. Bonjour Jacques Brunier.
Bonjour.
Vous publiez aux éditions Baudelaire votre essai Lyon, des histoires pas comme les autres. Alors vous avez un parcours atypique, directeur d'hôpital, vous avez travaillé au ministère de la Santé, plus de 300 articles importent votre signature dans des revues professionnelles. Comment on en arrive avec un tel parcours à raconter Lyon et ses secrets ?
D'abord, le goût de l'écriture. Certains ont besoin chaque jour de leur cigarette. Moi, j'ai besoin tous les jours d'écrire quelque chose.
Ouais.
C'est une passion.
Et pourquoi ce thème, alors ?
Alors, parce que je suis lyonnais, que j'ai lu beaucoup d'ouvrages sur Lyon. J'en ai 27 chez moi, c'est vous dire. Et il y a beaucoup d'ouvrages qui ont été écrits qui sont très volumineux. Je pense à Les Grandes Heures de Lyon, de Jean Thévenot, ou bien Histoire de Lyon et des Lyonnais, sous la direction d'André Latreille. Mmh. Alors, ce sont des sommes considérables, parce que c'est des ouvrages qui ont plusieurs centaines de pages. Et mon souhait, c'était d'écrire au départ un petit que sais-je. Tout simplement, 128 pages. Vous lisez ça complètement dans un aller-retour Lyon-Paris en TGV. Mmh. C'était mon objectif. Alors, j'ai commencé à prendre des notes sur tout ce que j'avais lu. Et puis, à fur et à mesure que je prenais les notes, je me suis aperçu qu'il y avait quand même pas mal d'imprécisions dans ces ouvrages sur certains épisodes de la ville de Lyon.
Oui.
Il y avait d'autres sujets qui étaient interprétés différemment. Et puis, surtout, ce qui me gênait davantage, comme historien amateur, parce que j'ai pas fait des études d'histoire au départ, mais des études de droit, des contradictions dans les différentes dates. Alors j'ai vérifié un certain nombre de choses et je me suis aperçu que il serait plus intéressant de traiter l'histoire de Lyon à travers 5 grands thèmes plutôt que de faire une histoire en continu depuis moins 43, Munatius Plancus, jusqu'à 2011. Il y a suffisamment d'ouvrages là-dessus.
Sur les erreurs, sur les mélanges que font les Lyonnais, il y a cet exemple qu'on retrouve souvent, celui de l'origine du 8 décembre. Hein. Aujourd'hui plus qu'avant,
oui.
Les Lyonnais ont bien du mal à connaître l'existence exacte de la fête. Souvent, on dit que c'est un rapport avec la peste, avec Marie. Les Lyonnais se trompent totalement là-dessus ou ils ont un peu raison ?
Ah non, ils se trompent complètement. La peste, c'est 1643. Il y a eu donc un vœu des Lyonnais pour préserver la ville de Lyon de la peste. Le 8 décembre, c'est l'élévation de la statue de la Vierge Marie sur la chapelle de Fourvière,
ouais,
en 1852. Donc vous voyez, ça n'a rien à voir. Alors pourquoi est-ce qu'on continue à faire cette erreur ? Parce que d'abord, elle est colportée par des gens mal informés. Je pense à l'ancien maire de Lyon, Pradel, qui écrit dans son livre « Mon Lyon superbe », il faut... Il dit voilà, la fête du 8 décembre a été créée pour remercier la Vierge Marie d'avoir sauvé Lyon de la peste. Mmh. Alors quand le maire de Lyon lui-même, enfin l'ancien maire de Lyon, écrit ce genre de bêtises, évidemment, c'est pas étonnant après dans le métro ou à Fourvière.
C'est encore perpétué aujourd'hui. Hein, on voit Merci Marie écrit en lumière sur la colline de Fourvière lors de la fête des Lumières.
Oui, alors c'est Merci Marie pour tout ce qu'elle a fait pour Lyon, puisque...
Oui, on apprend dans votre livre que Lyon a une relation particulière avec Marie. Il y a eu beaucoup d'appels à l'aide à la Vierge.
Oui, en 1638, lorsque les enfants de l'hôpital de la Charité étaient atteints du scorbut, que les médecins ne savaient pas comment soigner ce scorbut, donc il y a eu un appel à Marie en quelque sorte, et l'intervention mariale aurait aidé à guérir. En fait, le vieux principe « aide-toi et le ciel toi-même » se vérifie. Parce que quand on fait un petit peu des recherches, on s'aperçoit que les médecins de l'hôpital de la Charité, les administrateurs, avaient pris contact avec un médecin militaire à Bordeaux qui avait soigné le scorbut et qui leur a dit « Voilà, maintenant, si vous faites des décoctions ou des décoctions de citron, ça, vous pourrez soigner le scorbut.
Mmh. »
Et comme l'a écrit un auteur, Marcel Candeille, entre les prières et les décoctions de citron, le mélange a pu soigner. De même qu'en 1643, donc c'est la peste qui menaçait la ville de Lyon. Et là encore, les Lyonnais ont prié Marie pour que la ville soit préservée. La ville a été préservée, mais on sait que le maire de l'époque avait pris des mesures draconiennes d'hygiène et de sécurité pour éviter que la peste n'envahisse la ville. Alors un autre exemple... pour 1870, c'est le vœu pour préserver la ville de Lyon de la guerre. Les Prussiens, comme vous le savez, avaient envahi la France. Ils étaient descendus jusqu'à Nuit-Saint-Georges et menaçaient la ville de Lyon. Mmh. Et les Lyonnais, à nouveau une centaine de dames lyonnaises montent à Fourvière pour demander à l'archevêque de leur donner des prières pour que Lyon soit épargné. Donc Lyon était épargné. Nouvelle intervention mariale, mais là encore, aide-toi et le ciel t'aidera. Mmh. Il faut savoir que des troupes lyonnaises conduites par Sédel et Ferrer ont arrêté les Prussiens qui étaient dans les caves de Nuit-Saint-Georges et qui se trouvaient très, très bien d'ailleurs, qui n'avaient peut-être pas envie de descendre. Donc vous voyez, à chaque fois, effectivement, l'intervention mariale est évoquée par les Lyonnais, mais il y a toujours des éléments extérieurs que l'histoire nous oblige à reconnaître.
Alors on parlait de votre attachement au monde hospitalier, hein, vous lui consacrez une importante partie de votre essai. Il y a eu de nombreuses premières fois qui ont été réalisées à Lyon en matière de santé. Vous pensez que les Lyonnais ont tendance à l'oublier ?
Non, je crois que la médecine lyonnaise et la qualité de la médecine lyonnaise est connue. Et les Lyonnais ne savent pas toujours qui a fait quoi, mais ils savent que c'est la faculté de médecine de Lyon a formé de grands professeurs et que beaucoup d'entre eux ont été pionniers dans leur discipline médicale. Ça, je crois qu'ils le savent. Ils savent pas toujours qui a fait quoi.
Oui. Il y a quelques grands noms. Il y a des noms de rue, voilà. On se dit qui c'est.
Voilà, il y a quelques grands noms qui ressortent. On sait M. Vertemer, on sait qu'aujourd'hui M. Dubernard, par exemple, que je cite quand même dans mon livre. Je m'en suis tenu surtout à ceux qui étaient décédés, mais il y a quelques grands noms vivants, comme le professeur Partinsky. Alors, Partinsky, par exemple, personne ne va savoir ce qu'il a fait. Pourtant, il aurait pu avoir le prix Nobel de médecine. Puisque grâce à ses études et à ses découvertes, un prix Nobel de médecine a été décerné à celui qui a su exploiter son travail. Bon, Dubernard, tout le monde sait qui c'est, il n'y a pas à revenir dessus. Mais il y a d'autres noms, Vertemer aussi, donc je l'ai cité. Mais il y a d'autres grands noms de la médecine. Jaboulet, les gens ne savent pas trop dire, oui, c'est un professeur de médecine. Jules Courmont, c'est un professeur de médecine. Mmh. Alors donc, c'est l'occasion de rappeler ce qu'ils ont fait et en quoi ils ont été pionniers dans leur discipline.
Et vous terminez avec les Lyonnais au grand cœur, mais aussi ceux qui furent mal inspirés dans notre histoire. Il y a cette histoire qui a retenu mon attention. Notamment, elle concerne ces consuls qui ont failli tuer dans l'œuf le lien entre Lyon et la soie et du coup l'existence même des canuts. Hein.
Et oui, parce que Louis XI avait proposé aux Lyonnais de développer l'industrie de la soie, mais il fallait que les Lyonnais investissent. Et les Lyonnais ont, j'allais dire un peu brutalement, à l'époque, n'ont peut-être pas vu plus loin que le bout de leur nez. Ils se sont dit, nous, on ne veut pas investir les sommes qui nous sont demandées. Du coup, Louis XI a un petit peu patienté. Et puis, comme la patience n'était quand même pas son fort, il a tout ramené à Tours. Et aux frais des Lyonnais, d'ailleurs, c'est extraordinaire, c'est que tous les quelques investissements qui avaient été réalisés, les machines notamment, ont été transférées à Tours aux frais des Lyonnais. On a perdu beaucoup de temps et il faudra attendre François Ier pour que les Lyonnais ou que la soie se développe à Lyon et connaisse l'essor qui est le sien.
Vous proposez un ouvrage qui est très fourni, hein, quand les notes font parfois la même taille que le texte sur une page, c'est le signe d'un long travail de recherche. Vous y avez passé combien de temps ?
Je ne parle pas de toutes les lectures de mes 27 bouquins, bien sûr, mais à partir du moment où j'ai commencé à travailler sérieusement, prise de notes, recherche bibliographique, il m'a fallu 2 ans de travail.
Puis Jacques Brunier, vous êtes aussi guide à la Fondation Fourvière. Vous ressentez un vrai retour de l'intérêt des Lyonnais pour leur histoire, pour les racines de leur ville ou pas totalement ?
Comme guide, oui, je le ressens. Pas dans la rue, si vous voulez, mais ou pas dans mes conversations privées avec des amis. Mais à Fourvière, oui, il y a beaucoup de questions qui nous sont posées sur non seulement l'histoire de Fourvière, mais l'histoire de Lyon à travers Fourvière. Il y a une présentation qui est faite de Fourvière à laquelle je participe de temps en temps, c'est-à-dire l'histoire de Fourvière dans l'histoire de Lyon. Et c'est souvent ce genre de conférence, enfin de visite, si vous voulez, de visite conférence qui attire le plus de gens. Ce qui permet d'ailleurs, là encore, de rectifier un certain nombre d'erreurs qui sont commises ou d'apprendre aux Lyonnais des choses qu'ils ne savaient pas, mais ils ne savaient pas que Lugdunum, c'est Fourvière. C'est-à-dire que la cité romaine a été créée là-haut, sur la colline. Par exemple, les gens ne savent pas. Ils disent, tiens, est-ce que c'est le quartier de la Croix-Rousse ? Ils ne savent pas non plus, alors quelque chose de très simple, que Fourvière, la basilique de Fourvière, le sanctuaire, appartient aux Lyonnais. Ça n'appartient ni à l'église, ni à la mairie, ni au conseil régional, ni à l'État. Ça appartient à une fondation privée. Mmh. Et ce qu'on dit, nous, à Fourvière, Fourvière appartient aux Lyonnais.
Cet engouement des Lyonnais pour leur histoire, vous l'expliquez comment ? C'est parce qu'on l'apprend moins à l'école, voire pas du tout ? Est-ce que c'est aussi parce que du coup, les seuls livres qui l'expliquent sont des gros pavés que les gens n'ont plus envie de lire ?
Oui, effectivement. Bon, les livres qui sont trop volumineux, ça rebute un petit peu le lecteur. Et moi, je l'explique d'une façon plutôt simple, c'est que les Lyonnais aiment la ville de Lyon. Ils aiment de plus en plus la ville de Lyon. Je l'ai connu il y a, bon, je peux vous le dire, j'ai aujourd'hui 66 ans, donc je l'ai connu il y a fort longtemps, puisque j'y suis né, enfin, à quelques kilomètres de Lyon. Et cette ville est devenue l'une des plus belles cités de France. Elle a été magnifiquement améliorée. Les Lyonnais aujourd'hui et les non-Lyonnais aime de plus en plus cette ville et, par voie de conséquence, s'intéresse à l'histoire de cette ville.
Merci Jacques Brunier. Je rappelle donc la sortie de votre livre « Lyon, des histoires pas comme les autres » aux éditions Baudelaire. En attendant, notre entretien est à retrouver en intégralité sur lyonmag.com.
Merci pour votre invitation.
Ça jase à Lyon sur Jazz Radio en partenariat avec lyonmag.com.